Salut, vous écoutez le carnet de notes de Luc Saint-Élie. Le site est à http://blog.saint-élie.com. Sur ce site, vous pouvez récupérer mes notes audio, mais enfin, a priori, si vous écoutez ça, il n'y a pas trop de problème de ce côté-là, lire mes notes écrites, y réagir, m'envoyer des chocolats ou me laisser le numéro de téléphone de votre voisine Calipi Gélassive. Menu aujourd'hui, un message perso à Steve, un ami qui me veut du mal, une petite discussion sur la bonne façon de faire son RAW en photo, et puis quelques notes en vrac, et entre tout ça, on se fera un petit peu de zik. Je vais commencer par mon message perso à Steve. Steve, je te hais, je te déteste, je te maudis jusqu'à la 425e génération, que tes coucouilles sèchent et tombent et que ton foie jaunisse. Pour ceux qui n'ont pas suivi, Steve, il devait me sortir un téléphone qui marche bien avec mon iBook et une interface audio qui remplace avantageusement celle que j'ai. Et ce salopard a annoncé plein de trucs dont tout le monde se fout, tout le monde étant moi en l'occurrence, mais ni mon téléphone, ni mon interface audio. Steve, je te hais. Dernière note audio à propos du D70, j'ai répété, rabâché même, on doit pouvoir dire, qu'il n'avait de sens que si on faisait du RAW avec. Et j'ai un, je sais plus comment on dit maintenant, si c'est un visiteur ou un auditeur, qui a laissé un commentaire sur le site qui dit en gros quelque chose du genre « T'es bien gentil avec ton RAW, mais ça serait pas plus mal si tu expliquais ce que c'est, comment ça marche et ce qu'on fait avec. » Et c'est l'objet de la note d'aujourd'hui. Pour commencer, j'ai une extrêmement mauvaise nouvelle pour ceux qui avaient une vision un peu romantique de la photo numérique. Un appareil numérique, ça ne prend pas de photos et encore moins de photos en couleur. Je sais, c'est un petit peu dur, mais c'est comme ça, faudra vous y faire. Pour tout ce qui est de la partie optique, un appareil photo numérique, ça marche comme un appareil photo à film, c'est un projecteur diapo à l'envers. Les projecteurs de diapo envoient de la lumière au travers de la diapositive et projettent son image sur un mur ou un écran. Et un appareil photo, c'est l'inverse. C'est la lumière externe qui est envoyée à travers l'objectif et qui vient former une image sur le film ou le capteur. En fait, cette lumière, c'est la lumière qui est réfléchie par le sujet, qui envoie, qui projette une image sur le capteur. Donc pour la partie optique, c'est pareil. Là où les choses se gâtent, c'est après. Dans un appareil à film, la lumière vient impressionner le film qui forme une image qu'on appelle pour faire chic une image latente. Et cette image apparaît lorsqu'on traite chimiquement le film. C'est l'objet du développement du film. Tandis que dans le cas d'un appareil numérique, les choses sont très différentes. Le capteur, en fait, est formé d'une espèce de tapis de microscopiques cellules photoélectriques. Si vous voulez épater votre voisin dans les dîners en ville, ça s'appelle des photocytes. Et ces microscopiques cellules électriques, en fait, ce sont des petits réservoirs à photons. Les photons sont les grains de lumière qui fournissent un courant électrique proportionnel au niveau de remplissage. Normalement, à ce moment de la manœuvre, vous devriez être en train de vous demander « Mais qu'est-ce qu'on en a à foutre ?» Ben j'y viens justement. Ce qu'on en a à foutre, c'est que la première conséquence de ces petites cellules photoélectriques qui fournissent un courant électrique, c'est que si on vous a raconté que votre appareil faisait de la photo numérique, on vous a menti, puisqu'au départ, elle est bel et bien analogique, cette photo. Ensuite, le courant électrique qui est récupéré est passé par différentes moulinettes qui en ressortent des petits 0 et des 1. Ce que ça veut dire, c'est que ce n'est pas une image que forme votre capteur. Elle est avec un film, Il y a bel et bien une image sur le film. On ne la voit pas, il faut la passer par des bains chimiques, mais elle existe. Au niveau du capteur, il n'y a pas d'image. Il y a juste une suite de valeurs numériques. Alors la conséquence de ça, c'est que l'appareil que vous venez de payer une fortune parce qu'il fait des magnifiques photos en couleur, en fait, il ne fait pas de photos du tout. Il se contente de générer un fichier informatique qui contient une suite de valeurs numériques. Et dans les valeurs numériques, il n'y a pas de couleur. Je pense, c'est une interprétation purement personnelle, que ce qui a amené la couleur dans la photo numérique, c'est le coût des soins dentaires. Parce que si on vous vend un appareil à 1000 euros qui fait pas de photo en couleur, vous allez vous précipiter pour aller péter les dents au vendeur. Et ça, les ingénieurs japonais, ils l'ont bien compris. Alors pour vous permettre de faire des photos en couleur quand même, on utilise une petite ruse qui, pour la petite histoire, vient d'un chercheur américain de chez Kodak, qui consiste en gros à dire que puisqu'on ne peut pas capturer une image en couleur, on va séparer la capture en trois couleurs, le rouge, le vert et le bleu. C'est-à-dire que certaines de ces petites cellules photoélectriques vont capturer uniquement ce qui correspond à la partie rouge de l'image, certaines vont capturer uniquement ce qui correspond à la partie bleue de l'image, et d'autres vont capturer uniquement ce qui correspond à la partie verte de l'image. Donc on va au final obtenir trois images monochrome, une correspondant à la partie rouge, une à la partie verte, une à la partie bleue, et en bricolant le tout, on devrait bien finir par avoir une image potable à la fin. Donc tout à l'heure, j'ai un peu menti, j'ai dit que l'appareil n'était capable de fournir qu'un fichier avec des valeurs numériques. C'est pas complètement vrai. Il fournit un fichier avec des valeurs numériques qui correspondent donc aux différents niveaux de luminosité de l'image qui a été projetée sur le capteur et qui est séparé en trois parties. Une qui correspond à la composante rouge, une à la composante bleue, une à la composante verte. Ensuite, ces données, qui sont encore une fois des données purement informatiques, à ce niveau-là, la notion de clair, de foncé, ça n'a pas de sens, c'est des suites de chiffres, vont être passées dans une chaîne de traitement qui, à partir de ces chiffres, va reconstituer une image. C'est pour ça que j'ai commencé par dire qu'un appareil photo numérique, ça faisait pas de photos en couleur, on vient de voir pourquoi, mais que ça faisait même pas d'image du tout, l'appareil capture pas une image, il capture une suite de valeurs. Cette suite de valeurs est ensuite traitée par un microprocesseur qui va assembler le tout, mouliner le tout en fonction d'algorithmes variables pour obtenir à la fin un fichier JPEG, TIFF ou autre, en clair, une vraie image. Mais ça, c'est pas ce que l'appareil a capturé au début. Et en fonction de la façon dont ce traitement informatique, ce moulinage va se faire, on va pouvoir obtenir des résultats relativement différents. Et c'est à ce niveau-là qu'intervient la notion de fichier RAW. Parce que si on reprend la chaîne, quand vous appuyez sur le déclencheur, le capteur reçoit la lumière, génère un petit courant électrique qui est transformé en valeur numérique, en trois composantes, puis le tout est passé dans un petit microprocesseur qui applique à la volée une courbe de tonalité, parce que là, encore une fois, au niveau de la capture, il n'y a pas de notion de clair, de foncé et de dégradé de couleur, donc ça va être ajouté au moment du traitement, et à la fin, ça génère l'image que vous allez montrer tout fier à tante Berthe. Ça, c'est le fonctionnement d'un appareil qui fournit du JPEG. Mais toute cette partie informatique, il n'est pas obligatoire de la laisser s'effectuer dans l'appareil. On peut tout à fait l'effectuer en dehors de l'appareil, en bénéficiant d'une puissance de calcul plus grande d'un ordinateur, voire de logiciels qui vont traiter donc ces fichiers de valeur de luminosité, c'est dur à dire ça, des fichiers de valeur de luminosité, de façon éventuellement différente de celle qui a été utilisée ou qui aurait été utilisée par l'appareil si on l'avait laissé faire tout seul. Une petite parenthèse d'ailleurs à ce sujet, si vous avez déjà utilisé un compact, vous avez dû trouver qu'il était effroyablement lent. Une des raisons pour lesquels les compacts sont effroyablement lents, c'est qu'un compact s'est conçu pour fournir une image finie, c'est-à-dire pour assurer à l'intérieur toute la chaîne de traitement, récupérer ses valeurs numériques, les remouliner dans tous les sens, pour qu'au final, tout fier, vous puissiez mettre la carte dans votre lecteur de cartes et contempler vos œuvres. Or, il n'y a pas de secret. pour faire du traitement informatique rapide, il faut des gros processeurs. Un gros processeur, ça coûte cher et surtout, ça consomme beaucoup. L'autonomie, c'est un petit peu un de leurs problèmes. Mais si vous imaginez que votre ordinateur fonctionne avec des piles, ça ne marcherait pas extrêmement longtemps. Donc, les fabricants sont obligés d'utiliser des processeurs qui sont relativement lents. Et plus l'appareil effectue de traitement, plus il est lent. Il n'y a pas de mystère là-dessus. Et on peut dire que ce qui fait la différence entre un appareil très haut de gamme et un compact, c'est pas seulement sa qualité de fabrication, sa qualité de ci, sa qualité de ça, c'est aussi tout simplement parce qu'il y a un plus gros ordinateur dedans. Et là, mesdames et messieurs, c'est là où nous en arrivons à la question de ce fichier RAW. Le fichier RAW, c'est pas vraiment un format, c'est presque, on peut dire, une absence de format. C'est tout simplement la possibilité pour l'appareil d'enregistrer ce qu'il a numérisé. Ce fichier, cette suite de valeurs numériques qui correspond aux différents niveaux de luminosité des trois composantes de l'image, patati, patata, patati, patata, faites wind si vous vous en souvenez plus, de l'enregistrer directement, à charge pour vous de mouliner le tout, d'effectuer le travail qui aurait été normalement effectué dans l'appareil si vous lui aviez demandé un JPEG, de l'effectuer ailleurs, sur votre Mac ou sur votre PC. Alors à ce moment de la manœuvre, la question qu'on est en droit de se poser, c'est bien gentil ce cirque, mais quel en est vraiment l'intérêt ? La réponse, c'est qu'en procédant comme ça, on garde la main sur un certain nombre de caractéristiques de la photo, et la plus intéressante, surtout au départ, c'est la question de la balance des blancs. L'expression balance des blancs est héritée de la vidéo en photo argentique, on parlait de température de couleur. En fonction de la composition de la lumière, pour faire court, on va dire que cette lumière va avoir des dominantes. Ça, c'est un truc que vous pouvez expérimenter facilement. Votre magnifique pull orange, il n'a pas la même couleur sous un néon, en plein soleil ou sous un lampadaire la nuit. Or, cette balance des blancs, elle consiste à ajuster le rendu de couleur de l'image aux conditions d'éclairage. Or, si on se souvient ce que j'ai dit tout à l'heure, l'appareil photo n'enregistre pas de couleur, il n'enregistre qu'une suite de valeurs numériques qui correspond aux différents écarts de luminosité de l'image qui était projetée sur le capteur. Ensuite, c'est pendant le moulinage informatique qu'on va recréer littéralement ces couleurs, puisque l'enregistrement se fait selon trois valeurs, rouge, vert et bleu. Avec ce rouge, ce vert et ce bleu en quantité variable, le microprocesseur va recréer la teinte. Et si jamais l'appareil a enregistré une température de couleur, un réglage de couleur particulier, le traitement informatique va en tenir compte. Alors ça, c'est un peu subtil. Il faut bien penser que si vous avez votre appareil réglé sur la lumière du jour et que vous faites une photo en intérieur de votre chérie langoureusement allongée sur le tapis avec la cheminée comme seule source d'éclairage, votre chérie, elle va être toute jaune. Or, l'appareil photo, elle n'a pas photographié jaune. L'appareil photo, encore une fois, il n'a enregistré que les valeurs de luminosité qui correspondaient à votre chérie langoureusement allongée sur le tapis plein de poils. Ensuite, lors du traitement numérique, il y a une petite balise dans le fichier qui indique au logiciel et au processeur de traitement qu'il faut lui donner cette dominante-là, et c'est ce que va bêtement faire l'appareil. Lorsqu'on récupère le fichier directement, le fichier RAW, et qu'on fait soi-même son traitement avec un logiciel dédié, ce logiciel va donc, logiquement, c'est assez rare pour un logiciel d'être logique, mais là en l'occurrence c'est le cas, vous demander quelle température de couleur vous voulez appliquer à votre photo. C'est-à-dire que dans ce cas précis, même si vous avez photographié votre chérie langoureusement allongée sur un tapis plein de poils devant la cheminée, avec votre appareil réglé sur la lumière du jour, eh bien, il va suffire de demander au logiciel de lui appliquer on va parler, c'est un peu raccourci, ça va faire bondir les spécialistes ce que je vais dire, mais l'idée est là, de lui appliquer la dominante des photos éclairées par une lumière incandescente. Et donc lorsqu'il va recréer les couleurs, il va en tenir compte et votre chérie reprendra sa carnation si délicate qui vous fait frémir. Il y a plein d'autres raisons d'utiliser le format RAW. J'aime pas bien le terme de format appliqué au RAW, mais bon, allez, va pour le format RAW. Ça, on les verra une prochaine fois. My baby's leaving.
happy home.
S'il vous reste un peu de pognon, du 20 au 23 janvier, Taschen solde un paquet de bouquins. Taschen, c'est un éditeur qui a un catalogue assez irrégulier, qui contient des choses sans grand intérêt à côté de pure merveille. Et leur site web est à www.taschen.com. Et si vous êtes à Paris, pas de bol, mais enfin pour une fois, ça vous servira à quelque chose. La boutique Taschen est aux 2 rue de Bussy, dans le 6e, téléphone 01 40 51 79 22. C'est donc vendredi 21, samedi 22 et dimanche 23. Et ça vaut le coup d'aller y jeter un petit coup d'œil. C'est une pub gratuite, mais vraiment méritée. Une petite news concernant Nikon et tout particulièrement le D70. Nikon vient de mettre en téléchargement un nouveau firmware. Le firmware, c'est le micro-logiciel qui fait fonctionner l'appareil. La nouvelle version s'appelle 1.03 et les fournit sans cachet pour les nerfs. Et ça, c'est bien dommage parce que pour arriver à lui mettre la main dessus, il en faut des cachets pour les nerfs parce que les serveurs web de Nikon ont manifestement été créés par des pervers, il n'y a pas tellement d'autres qualificatifs. Donc pour arriver à mettre la main sur cette mise à jour, comme d'ailleurs pour toutes les mises à jour de Nikon, vous faites www.nikon.fr. Ensuite, en haut sur la page, il y a une barre de menu. Vous allez sur Contact, puis sur Support technique. Une fois que vous avez fait ça, vous arrivez sur le support technique européen de Nikon. Et alors là, si ça n'est pas fait, vous devez vous enregistrer. Et une fois enregistré, à ce moment-là, vous avez une espèce d'interface pseudo-personnalisée et vous faites une recherche avec réflexe numérique pour produit, D70 en deuxième valeur, toute catégorie, et vous allez tomber, si vous êtes vénard, sur cette mise à jour. Alors, à quoi elle sert cette mise à jour ? C'est à régler une sombre histoire de changement du profil colorimétrique qui se ferait mal en fonction des mode utilisé, je vous lis la doc Nikon parce que ça vaut son pesant de noisette. Donc problème résolu avec la version 1.03 du firmware. Avec des applications comme Adobe Photoshop, les fichiers JPEG enregistrés avec le profil colorimétrique Adobe RVB ne sont pas lus correctement. Ce problème apparaît, et c'est là qu'il faut s'accrocher, ce problème apparaît donc lorsque l'option mode couleur 2 du menu optimisation d'image menu personnalisé est sélectionnée en mode d'exposition PSAOM, c'est programme priorité vitesse diaphragme manuel, et qu'une option autre que personnalisée, par exemple portrait, est ensuite sélectionnée dans le menu optimisation d'image, puis utilisée. Bref, j'ai absolument pas compris à quoi ça servait. Manifestement, pour ceux qui utilisent les modes de type portrait, etc., tous les modes programme, ça met un petit peu le Bronx dans la gestion de la colorimétrie, et grâce à ce magnifique nouveau firmware, tout va rentrer dans l'ordre. Yeah! Le blues que vous entendez derrière moi est de The Paul Wood Band et ça s'appelle Don't Call Me. Comme d'habitude, vous trouverez l'adresse du site de ce groupe sur la page de ma note à http://blog.sintelie.com. Ciao.